Jean-François Digel. La preuve par Z. Une émission de musique classique faite à la main et pour les oreilles. Bonsoir. Magnifique éclat d'un unique accord d'ut majeur, nous écoutions la fanfare d'ouverture du célèbre Orfeo de Monteverdi, un ouvrage entendu pour la première fois en Italie en 1607, à Mantoue très exactement, et que l'on considère comme le premier opéra de toute l'histoire de la musique. Mais si je vous ai fait entendre ce célèbre morceau, c'est surtout parce que Monteverdi le nomme sur la partition toccata, et que c'est à ce genre que je voudrais consacrer l'émission de ce soir. Alors, une toccata, c'est quoi au juste ? Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas si simple de répondre à cette question. À l'époque de Monteverdi, aucun doute. Une toccata, c'est une sorte de fanfare destinée à accueillir un monarque ou autre personnage d'importance. Mais au fil du temps, ce terme va désigner d'autres types d'écriture. Et c'est pourquoi je vous propose aujourd'hui un grand voyage dans l'histoire de la musique, des flamboyantes toccata baroques aux toccata modernes et leur obsédant mouvement perpétuel. Alors, après la toccata d'ouverture de l'Orfeo de Monteverdi, voici maintenant une toccata particulièrement spectaculaire et virtuose. Une toccata véritablement théâtrale. Je pense bien sûr à Jean-Sébastien Bach, à sa célèbre toccata BWV 565 en ré mineur, sans aucun doute aujourd'hui la pièce la plus connue de tout le répertoire pour orgue. zébrure de triple croche, silence prolongé, grands accords puissants et étagés, contraste de nuances, virtuosité digitale. Nous écoutions la plus théâtrale de toutes les toccatas de Bach, la grande toccata en ré mineur BWV 565. Et c'était Pierre Cochereau qui faisait sonner en 1973 les grandes orgues de Notre-Dame de Paris. Une interprétation saisissante, vivante, incarnée. Même si je vous le concède, cette registration est assez éloignée des moyens dont disposait le jeune Bach à l'époque. Une toccata, c'est donc dans l'esprit de Bach un morceau à la fois virtuose, très expressif et possédant avant tout la liberté, la fantaisie d'une improvisation. Ainsi, celle qui ouvre sa sixième partita pour clavecin, l'une des premières œuvres publiées par Bach et qui, d'après l'un de ses biographes, fit, je cite, « toute une sensation parmi ses contemporains dans le monde de la musique ». On n'avait jamais auparavant vu ni entendu des compositions pour clavier aussi splendides. Quiconque apprendrait à jouer l'une de ces pièces à un haut niveau ferait fortune dans le monde. C'était le grand Gustav Leonhardt en personne qui nous faisait profiter des belles appoggiatures de la toccata de la sixième partita de Jean-Sébastien Bach. Alors après l'orgue et le clavecin, je vous propose maintenant d'écouter Bach au piano. Puisque comme vous le savez, de nombreux pianistes se sont appropriés ce répertoire, et parmi eux bien sûr Glenn Gould et son articulation reconnaissable entre mille. Voici donc par notre grand pianiste canadien un petit extrait de la toccata en sol mineur BWV 915, une toccata qui me donne à chaque fois l'impression que l'instrumentiste improvise devant nous, juste pour le plaisir de faire sonner l'instrument, de le toucher. Après tout, le mot toccata ne vient-il pas de l'italien toccare, c'est-à-dire toucher ? le début de la toccata en sol mineur BWV 915 par Monsieur Glenn Gould. Quand on pense que, comme la plupart des œuvres de Bach, celle-ci n'aura été éditée qu'un siècle plus tard, dans les années 1830. C'est d'ailleurs à cette époque que la toccata perd son esprit de fantaisie pour ne conserver que l'idée de vélocité, de virtuosité, principalement sous la forme d'infatigables mouvements perpétuels. Le public raffole alors de virtuoses comme Paganini, Thalberg, Liszt, qui lui en mettent plein la vue et plein les oreilles. Et c'est sans doute ce qui va pousser des compositeurs comme Onslow, Kramer ou Czerny à ressusciter la toccata. C'est dans cet esprit que le jeune Schumann écrit une pièce qu'il intitule dans un premier temps Exercice, dans un second temps Étude fantastique, avant de l'éditer à Leipzig sous le nom de Toccata. Cette toccata offre d'ailleurs une étonnante particularité. Elle n'utilise la plupart du temps que 9 des 10 doigts du pianiste. Il faut dire que Schumann s'est abîmé les ligaments du troisième doigt de la main droite en travaillant son piano avec son majeur maintenu immobile par une ligature accrochée au plafond, mécanisme censé dans son esprit développer l'indépendance des doigts.
Thank you.
Un engrenage infernal de double croche, d'octaves, de notes répétées. Un morceau qui aurait fait dire à sa femme Clara, pourtant elle-même grande pianiste virtuose, « Cher Robert, ta toccata serait tellement, tellement, mais tellement plus facile à quatre mains. » Mais c'était bien par les deux seules mains de Martha Argerich que nous écoutions à l'instant cette redoutable toccata de Robert Schumann, sans aucun doute l'une des plus connues de toutes les toccatas pianistiques du XIXe siècle. Toujours au 19e, mais cette fois-ci à l'orgue, il y a une toccata que j'apprécie tout particulièrement, signée Eugène Gigou. Alors Gigou, ça ne vous dit sans doute pas grand-chose, mais ça a été quelqu'un d'important dans la musique française. Élève de Saint-Saëns et condisciple de Fauré, qui avait la plus grande admiration pour sa technique d'organiste et d'improvisateur. Figurez-vous que nommé titulaire de l'orgue de l'église Saint-Augustin à l'âge de 19 ans, il ne prendra sa retraite que 62 ans plus tard. On peut supposer qu'il avait tous ses trimestres. Dans la toccata que vous allez maintenant entendre, une même formule se répète, évolue, module, se déploie. Un peu comme ce que l'on appelait à l'époque dans la musique française une fileuse. C'est le tic-tac du rouet que les basses finiront petit à petit par absorber.
Thank you.
Daniel Böckenhoff interprétait l'une des 10 pièces pour orgue d'Eugène Gigoux, intitulée bien sûr comme il se doit, forcément dans cette émission, Toccata. Alors à la fin du 19e siècle, il faut bien sûr citer Debussy, qui signe en 1896 une étincelante toccata pour piano que je peux écouter ou jouer en boucle sans jamais me lasser. Un mouvement ininterrompu de double croche, tour à tour gracieuse, entêtante, saccadée, mystérieuse, ruisselante, tourbillonnante, fuyante comme une nuit d'étoiles, en gamme, en arpège ou en notes répétées, tricotant comme sur un clavecin ou baigné de pédales et de résonances jusqu'à l'exultation finale. L'éblouissante Monique Haas dans la toccata de Claude Debussy, une des plus extraordinaires interprétations de l'œuvre, un enregistrement de 1949. Alors au XXe siècle, la toccata redevient furieusement à la mode. Je vous propose d'en écouter tout de suite un exemple significatif avec celle pour piano et petit orchestre de Francis Poulenc, une pièce écrite en 1929 en levée de rideau d'une sorte de ballet destiné aussi bien à la danse qu'au piano. comme nous l'explique le compositeur, Obad est un concerto chorégraphique mettant en valeur simultanément une danseuse et un pianiste. Mes amis ayant mis à ma disposition 18 musiciens, ce qui était magnifique pour une soirée privée, l'apport du piano corsette encore les possibilités sonores. C'est ainsi que naquit cette œuvre amphibie dont j'ai écrit moi-même l'argument. Toujours du côté de la toccata orchestrale, voici quelques années plus tard celle du chef d'orchestre, pianiste et compositeur italien Alfredo Casella. La toccata que vous allez entendre maintenant est une véritable fantaisie musicale, de vastes proportions et de formes libres, qui offre de nombreuses analogies architecturales avec les illustres toccatas du XVIIe siècle de Frescobaldi. On ne s'ennuie en effet jamais à l'écoute de cette toccata rythmique et colorée, dont les séquences contrastées font se succéder de puissants ostinatos rythmiques, de glorieuses fanfares et de nombreux passages lyriques au souffle cinématographique. Je pense par exemple aux grandes épopées du réalisateur américain Cecil B. DeMille. Thank you. la glorieuse toccata pour orchestre d'Alfredo Casella, magnifique composition de 1933, et c'est Francesco La Vecchia qui dirigeait l'orchestre symphonique de Rome. Retour au piano avec la toccata de bravoure de Pierre Sancan. Pierre Sancan, je ne peux dire ce nom sans une certaine émotion, puisqu'il a été pendant de nombreuses années à la fois mon professeur de piano et de composition. Premier Grand Prix de Rome en 1943, Pierre Sancan va devenir pendant 30 ans l'un des professeurs de piano les plus recherchés du Conservatoire de Paris, formant entre autres Jean-Bernard Pommier, Jean-Philippe Collard, Michel Béroff, Abdelrahman El-Bacha, Jean-Eflamme Bavouzet. Bon, si je continue la liste, on en a jusqu'à la fin de l'émission. Écrite en 1940, sa toccata pour piano est aujourd'hui encore régulièrement jouée en concert par de nombreux pianistes. Une toccata crépitante, une toccata aux mains alternées, une toccata de bras plutôt qu'une toccata de doigts, une toccata aussi courte qu'efficace, qui plonge deux fois dans l'ombre avant de remonter vers la lumière. Alors comme nous l'avons vu avec la toccata de Casella et dans une moindre mesure avec celle du ballet Obad de Poulenc, au XXe siècle, la toccata n'est plus uniquement réservée au seul clavier. En voici une pour orchestre, particulièrement pittoresque, écrite en 1930 par le grand compositeur brésilien Hector Villa-Lobos. Sous-titrée « Le petit train du paysan brésilien », cette partition extrêmement populaire au Brésil nous fait entendre un train se mettant progressivement en action avec grincement de roues et coups de sifflet, avant que tout l'orchestre ne se mette à sillonner la vaste campagne brésilienne, les Ganzas, les Chocalhos et le Reco Reco incarnant le fameux tatak-tatum, tatak-tatum, tatak-tatum. Nous écoutions le dernier mouvement de la deuxième Bachianas Brasileiras d'Hector Villa-Lobos, une étonnante toccata qui fait forcément penser au Pacifique 231 d'Arthur Honegger, un mouvement symphonique composé quelques années plus tôt qui s'inspire lui aussi de l'univers ferroviaire. Alors pour conclure cette émission entièrement consacrée aux toccata, en voici une de 1945 qui ne devrait pas vous laisser indifférent. Elle est signée du grand compositeur russe d'origine polonaise, Mieczysław Weinberg. Et son caractère martelé, implacable, impitoyable, est à l'image de cette Seconde Guerre mondiale pendant laquelle toute la famille du compositeur aura été exterminée par les nazis. Avec plus de 500 compositions, dont une vingtaine de symphonies, 7 opéras, 17 quatuors à cordes, Weinberg est aujourd'hui considéré comme un compositeur aussi important que Shostakovich, dont il fut d'ailleurs toute sa vie extrêmement proche, humainement comme musicalement. Nous écoutons maintenant la toccata de son trio pour violon, violoncelle et piano, sorte de danse macabre dont les doubles croches groupées par 5 ne nous laissent aucun espoir. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Weinberg n'a que 25 ans lorsqu'il écrit son trio pour piano, violon et violoncelle, dont nous venons d'écouter le second mouvement, une toccata dont la puissance et l'intensité sont véritablement à couper le souffle. Au violon, c'était le célèbre Gidon Kremer, l'un des grands défenseurs de la musique de Weinberg, je le cite, « Pendant des décennies, Weinberg a été dans l'ombre de Shostakovich, et comme de nombreux collègues, j'ai commis l'erreur de ne pas reconnaître sa grandeur. Depuis quelques années, j'ai compris que Weinberg était aux côtés de Shostakovich, l'un des plus grands compositeurs de son temps en Europe de l'Est. » C'était La Preuve par Z, une émission de Jean-François Zigel, réalisée par Anne Weinfeld et préparée avec Théo Friconeau. Chef opératrice du son, Élise Lue. À la semaine prochaine. Juste après le journal, une journée particulière de Zoé Varier.